Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, alerte à Malibu.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors, au risque de vous déplaire, la série télé la plus connue du monde, ce n'est pas Game of Thrones. Ah, je sais, je suis désolé. Non, mais avec 145 pays qui la diffusent et des centaines de millions de spectateurs à travers le monde, voire même milliards de spectateurs, la plus populaire, c'est Alerte à Malibu. Bah oui, je suis désolé. Je suis navré, c'est pas faute à moi, hein, c'est juste la réalité. Même Joe et Chandler sont captivés par la série, une série qui démarre en 1989 et qui durera 242 épisodes et 11 saisons.
What you watching?
Baywatch.
What's it about?
Lifeguards?
Well, that sounds kind of stupid. Who is she?
Et Alerte à Malibu a même suscité un long métrage, un peu passé sous le radar de tout le monde d'ailleurs, et pourquoi pas, avec Dwayne Johnson dans le rôle de Mitch Buchanan et Zac Efron. Et cette série, Alerte à Malibu, je vous propose de la vivre et de faire de vous un héros. Oui, un vrai héros, pas un acteur qui joue les héros, hein. Un vrai héros, un vrai de vrai, un sauveteur. Une personne qui surveille la plage et fonce dans l'eau dès qu'il distingue un nageur en difficulté. Et qui ne le fait pas au ralenti, hein, pas avec une chanson pop en fond sonore comme en ce moment, mais qui le fait réellement. Il saute à l'eau au péril de sa propre vie, au risque d'être lui-même ou elle-même emporté par le courant, noyé ou même blessé. Bref, une personne qui sauve les gens de la noyade. Hein, là, ça rigole moins, hein, c'est moins glamour. Hein. Vous êtes Greg Bonan. Un sauveteur, assigné à la tour 18, sur une plage de Californie. Votre histoire et celle de la série est absolument incroyable. C'est l'histoire de votre passion que je vais vous raconter. Une passion pour le travail que vous avez, sauveteur de plage. Une leçon dans la gestion d'une série télé, dans l'opiniâtreté qu'elle demande pour exister et se hisser au-dessus de la mêlée. Si, comme moi, vous détestez Alerte à Malibu pour son côté superficiel, venez vivre la vie de Greg Bonan, car vous allez découvrir un monde qui va bien au-delà des attributs mammaires de Pamela Anderson. Vous êtes donc Greg Bonan. Et malgré vos problèmes de vue, que vous dissimulez via des verres de contact, vous avez passé et réussi l'entraînement pour devenir sauveteur. En 1970, vous êtes officiellement un lifeguard, comme on dit, à Venice Beach. Vous avez donc ensuite exercé à Will Rogers, à Playa del Rey, juste sous le décollage des avions de l'aéroport de Los Angeles et au sud de Santa Monica. De toutes ces années, vous avez vécu des drames, des miracles, vous avez vu des mômes se droguer sur la plage ou pire, nager alors qu'ils étaient sous et qu'ils ne se rendaient même pas compte que l'un d'entre eux s'était noyé. Vous avez empêché des rixes ou des gens se faire poignarder par des voyous. Vous avez aussi rencontré des collègues formidables qui avaient les talents dans plein de domaines, le graphisme, l'organisation, l'écriture. Et vous gardez cela en tête, parce que ça pourrait vous servir un jour, on ne sait jamais. Quelques années plus tard, en 1977, vos activités de sauveteur vont vous mettre en relation avec un producteur télé. Bah, vous êtes déjà, de toute façon, à Los Angeles. Hein. Et puis, pour parler clairement, vous avez sauvé ses deux enfants de la noyade. En novembre de la même année, vous allez donc dans son bureau, au CBS Television City, et lui, il est responsable de la société de production MTM. La société qui produit des séries comme Le Mari Tyler Moore Show, bon, ça on connaît pas trop en France, Lou Grant, mais plus tard aussi Hill Street Blues. Son nom est Stu Erwin. Alors, vous allez lui parler de votre idée pour un film, une série, un court-métrage, enfin peu importe. Ça serait bien quand même de faire quelque chose sur les exploits des sauveteurs des plages. Votre série s'appelle ACES, un acronyme pour Aquatic Corps Emergency Service. ACES. Ça serait une série d'action dramatique avec des sauvetages hors du commun. Bon, Stu vous dit, poliment, que le projet lui paraît assez intéressant. Mais ils viennent de se prendre un râteau de la part de chaînes avec lesquelles ils bossent pour un projet de série exactement du même type, action, aventure, hein, et une série produite par Brian Clemens. Le Brian Clemens de Chapeau et bottes de cuir. Hein. Donc, désolé, mais non merci. Bah tant pis, ça vous aura donné au moins l'opportunité de développer une idée avant de la ranger dans un tiroir. « En 1978, avec l'aide de Jack Hennessy et de sa société de production, vous êtes lancé dans le documentaire sportif. Fire on Ice, votre documentaire sur l'équipe des États-Unis en compétition avec Placide pendant les Jeux Olympiques, a été une formidable expérience. Et le documentaire a même obtenu un vrai succès. Vous avez enchaîné ensuite avec d'autres documentaires, dont un sur les Jeux Olympiques d'hiver en 1984 à Sarajevo et un autre en 1988 sur ceux de Caligari. Vous apprenez donc comment on produit un film et toute la logistique qui va avec. En 1981, avec votre patron, Jack Hennessy, vous décidez de diversifier vos activités. Vous allez tenter le pari des projets fiction. Et le premier qui vous vient à l'esprit, c'est celui que vous aviez développé quelques années plus tôt, ACES. Vous allez donc faire le tour des chaînes, des maisons de production, vous allez apprendre à la dure comment on se fait renvoyer dans les buts 10, 100, 1000 fois. ACES, la vie des héros des plages, comment ils sauvent des vies en journée et font face à leur vie personnelle, amoureuse et familiale le soir venu, ne convainc personne. Bah, il ne se passe jamais rien sur une plage, vous dit-on. Mais vous ne vous déclarez pas vaincu. En 1988, soit 10 ans après avoir développé le projet de série sur des sauveteurs, vous allez demander à votre équipe de vous aider à tourner un épisode de démonstration. Un peu une bande démo, quoi. Vous plantez votre caméra au milieu des sauveteurs, dont un qui a pour nom Mike Newman, retenez bien ce nom car il va revenir après, et vous tournez encore et encore. Et ça marche! Ce petit film de présentation va convaincre Stu Erwin. Ce coup-ci, il va être définitivement convaincu. Il est certain que ça va marcher et il propose le projet à une grande chaîne, la CBS. Ça tombe bien, il a de toute façon un accord, un contrat avec CBS qui doit produire 10 de ses projets. Formidable, non? Eh ben non. Début juillet, le téléphone sonne. C'est Stu. CBS retoque le projet à la surprise générale. Badaboum. Par contre, de cet échec, vous en conservez un nouveau nom. Plutôt que ACES, votre projet de série a maintenant un nom qui claque. Un nom que votre mère vous a suggéré un soir à dîner. Baywatch. Profitant d'une grève des scénaristes qui paralyse toute la production, la boîte de production de Stu va relancer la machine. Vous allez tourner un nouvel épisode de présentation, une sorte de vidéoclip luxueux, ce coup-ci en 35 mm, avec des plans d'hélicoptères qui montrent les exploits des sauveteurs et la beauté du paysage. Mais pas de vedette, pas de scénario, rien, un clip quoi. Et ça marche! Le patron de la chaîne NBC est convaincu. Il vous achète un téléfilm, un unitaire. Hein. Mais en tout cas, Baywatch va exister. Bon, maintenant, vous êtes un peu mal, hein, parce que il vous faut tout trouver. Quoi, où et qui? Avec Doug Schwartz et Michael Burke, deux scénaristes chevronnés, vous allez donc écrire le téléfilm. Vous allez répondre aux demandes de la NBC qui veut avant tout une série policière avec des crimes et des enquêtes. Il va donc y avoir une trame thriller avec Metchen Emick, l'actrice qui sera ensuite dans Twin Peaks. Elle va poursuivre de ses assiduités, puis tenter d'assassiner Craig, le sauveteur héros du téléfilm qui l'a sauvé de la noyade. Craig est interprété d'ailleurs par Parker Stevenson. Mais vous allez aussi développer une histoire avec Richard Jekyll, tenant le rôle d'un sauveteur envoyé pour porter secours à des gens sur un bateau de pêche qui a explosé. Bon, ça c'est acté, et il vous faut maintenant caster l'acteur qui sera le personnage principal de la série, Mitch Buchanan. Alors, vous allez voir des acteurs. Lorenzo Lamas, le futur Renegade, Adrian Paul, le futur Highlander, Tom Wopat, de Sheriff Fais-moi peur, William Catt, de Ralph Super-Héros. Et puis la chaîne NBC vous propose alors un acteur qui vient de travailler pour eux et qui est devenu un peu une vedette maison. La star de K2000. Non, pas la voiture, hein. David Hasselhoff. Ben, David Hasselhoff, il est très apprécié du public. Il a une présence physique indéniable. Et puis son audition se passe, on ne peut mieux. Il a tout à fait le physique, il pourrait devenir un sauveteur bien réel. Erika Eleniak, la petite fille que l'on voyait dans E.T., a bien grandi. Elle est engagée pour le téléfilm dans le rôle de Shawnee. Elle venait aussi d'être d'ailleurs la playmate du mois dans le dernier numéro de Playboy, mais ça, vous ne le saviez pas. En fait, ce que tous et toutes ignorent, c'est que leurs personnages sont tous basés sur des sauveteurs bien réels. Des gens que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé. Bon, par exemple, c'est votre ami, le sauveteur Phil Topar, qui est le modèle pour le personnage de Mitch, qu'incarne David Hasselhoff. Shawnee, c'est Nathalie Locus, et ainsi de suite. Nous sommes le 4 janvier 1989 et c'est un grand jour pour vous, le tournage du téléfilm Baywatch Panic at Malibu Pier qui commence. Et là, vous avez votre premier souci. Une de vos actrices a peur de l'eau. Non mais, ça s'invente pas quand même. Hein. Pam Bowen, vous avez pourtant assuré qu'elle savait nager, que ça ne posait aucun problème. Eh ben si, vous devez d'urgence lui trouver une remplaçante. Ça sera une Miss Univers, pas moins, Shawn Weatherly. Ouf! Bon, la pauvre Pam, elle est apparue loin de l'autre dans un épisode de Dallas, et puis rien d'autre. Et puis, vous avez un deuxième souci. Le réalisateur du téléfilm, Richard Compton, bon, il est gentil, hein, mais il s'en fout un peu, hein, il s'investit pas trop sur le projet. Vous allez donc devoir réaliser avec lui, à ses côtés. Bon, ensuite, si la série se fait, en tant que réalisateur du pilote, il continuera de toucher $1,000 pour chaque épisode. Hein. Ça, c'est la base quand on est réalisateur d'un pilote. Mais bon, on n'en est pas là. Vous allez être le réalisateur de la seconde équipe, vous allez tourner des scènes supplémentaires une fois que Richard aura terminé. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Votre budget pour ce téléfilm, qui est plutôt confortable, est de $4 millions. Sauf que là, vous dépassez de 2 millions. Bon, boum, carrément. Bah, c'est peut-être le voyage à Hawaï pour toute l'équipe, hein, qui a été nécessaire uniquement pour quelques scènes, qui est la cause de ce large dépassement. Bon an, mal an, le téléfilm est diffusé un dimanche soir d'avril 1989. Bim, 34% de part de marché, le carton, le succès. Et 4 semaines plus tard, Grant Tinker, le patron de la MTM, là où travaille votre copain Stu, va vous convoquer avec Stu pour vous annoncer « Baywatch va devenir une série à la rentrée 89 ». Vous avez une commande ferme de 12 premiers épisodes. Votre rêve d'une série sur votre métier, sur des sauveteurs, va devenir réalité. Et même mieux encore, un peu comme si les astres s'étaient alignés. En juin 1989, vous faites une visite des plages et des lieux de sauvetage pour toute votre équipe. Alors que vous arrivez à Venice, un jeune enfant se précipite vers vous. « au secours, mon frère se noie !» Vous avez 20 ans de sauvetage derrière vous, vous plongez, vous retrouvez l'enfant qui ne respire plus, qui a été emporté par un contre-courant, vous parvenez à le ramener sur la plage et à le ranimer. Votre sauvetage héroïque, alors que vous n'étiez même pas en fonction, vous vaut une médaille, les honneurs de la presse, les félicitations de la maison de production. Malheureusement, NBC ne capte pas le message. Plutôt que de bâtir des épisodes autour d'histoires de ce type réaliste et héroïque, ils veulent que Baywatch, ou Alerte à Malibu, leur nouvelle série, soit dans le moule très traditionnel de la série policière. Hasselhoff et ses amis sauveteurs vont avoir des boulots de flics. Ils vont chasser les criminels, les bandits qui s'égarent sur leur plage. Et encore pire, NBC décide d'ajouter un nouveau personnage en cours de route, John Cort, incarné par l'acteur John Allen Nelson. Oui, vous vous souvenez peut-être de lui, il incarnait le rôle de Warren Lockridge dans Santa Barbara. À votre grande surprise, John s'avère être un type plutôt épatant, hein. La greffe fonctionne plutôt bien. Et depuis, John est apparu dans plein de séries, dont 24 heures chrono, et même dans la version américaine des Bracelets Rouges. Au 18e épisode, Jill Riley se fait tuer par un requin. Sean Waverly, la Miss Univers, que vous aviez embauchée en catastrophe, en avait un peu marre de ne rien faire dans la série. Elle a demandé à la quitter. Il s'avère que les scénaristes ne trouvaient aucune histoire très très motivante pour elle. Le 7 mai 1990, alors que la première saison de votre série prend fin, déjà une saison entière, c'est déjà bien. Hein. Et là, on vous convoque encore pour vous annoncer de vive voix que Alerte à Malibu est annulée au terme de sa première saison. L'audience, qui était en moyenne de 9,6, est potable, mais sans être formidable en fait. Hein. Le budget de $1,300,000 par épisode est assez conséquent. NBC en payait 940 000 et elle a besoin de place dans sa grille pour les nouveautés de la rentrée prochaine. Donc, au revoir Alerte à Malibu. Votre vedette David Hasselhoff va résumer toute cette histoire de cette manière.
Au départ, Alerte à Malibu a duré une saison sur NBC. La série a plutôt bien marché. Elle a fait la meilleure audience en 5 ans sur cette case horaire. Mieux encore qu'une série dans la même case qui était K2000. Ils ont annulé K2000, puis ils m'ont fait revenir avec Alerte à Malibu qu'ils ont ensuite déprogrammé.
Voilà, fin de l'histoire Alerte à Malibu. Mais non. Début d'une autre. Parce que c'est là où les coulisses d'Alerte à Malibu vont prendre une toute autre dimension. De nos jours, cette première saison, produite par la NBC, orientée très série policière, n'est plus guère rediffusée. Si Baywatch doit renaître, il fallait clairement qu'elle soit rebootée de fond en comble, plus proche de la vision initiale que vous en aviez. Des sauveteurs, qui sont les héros, mais aussi des êtres humains. Alors, avec toute votre relative inexpérience et sans connaître vraiment les obstacles qui vont se dresser devant vous, vous allez tenter de sauver Alerte à Malibu. Grant Tinker, le patron de la boîte de production, accepte déjà de vous céder les droits pour $10. C'est vraiment un grand cadeau. Hein. Les patrons de la boîte acceptent ensuite de vous laisser la distribution des premiers épisodes, moyennant un petit bonus de $5,000 pour chaque nouvel épisode que vous pourriez éventuellement produire. Bon, ils y croient pas, hein, mais enfin, bon, voilà, ils vous font une petite fleur. Le comptable Sid Tessler accepte de vous suivre dans cette nouvelle aventure. Lui, il a l'habitude d'organiser les budgets pour des productions télé internationales. Avec lui, vous travaillez sur le budget nécessaire à ces nouveaux épisodes. Plutôt que $1,300,000 l'épisode, vous passez, en réduisant un peu les frais, à $800,000. Pas mal. Vous rappelez les scénaristes avec qui la série avait été développée, Doug et Michael, eux, ils sont partants. Évidemment, David Hasselhoff accepte de repartir avec vous sur la suite de Baywatch Et très finement, il désire aussi en devenir le quatrième producteur, ce qui lui donne quand même un droit de regard et un pourcentage sur les bénéfices. Les autres acteurs et actrices aussi repartent à vos côtés, Bill Warlock, Monte Marca, Erika Leniak, tous acceptent une grosse coupe dans leur salaire, mais l'assurance qu'ils auront plus de royalties avec les rediffusions qui sont très nombreuses pour chaque épisode. Seul Parker Stevenson va refuser, mais lui par contre, il restera ami avec vous parce qu'il va devenir le réalisateur attitré de très nombreux épisodes. Fremantle, le distributeur international de la série, vous propose 400 000 dollars pour chaque nouvel épisode. Ah, quand même. Ben pourquoi ça ? Ben c'est simple, la série est un peu passée inaperçue aux États-Unis sur la NBC, mais en fait, elle fait un vrai carton en Europe. Et ça, pour vous, c'est une sacrée découverte. En Allemagne, Hasselhoff est devenu une méga star. En Angleterre, où la série est diffusée, sur la chaîne ITV, vous découvrez une petite subtilité qui va absolument tout changer. En Grande-Bretagne, quand une série contient de la violence envers les femmes ou les enfants, l'usage d'armes, des viols ou des attaques par d'autres personnes, votre série est obligatoirement diffusée en deuxième partie de soirée. Les droits de diffusion sont alors carrément peanuts. Par contre, dès que vous retirez cela de votre série, là, c'est jackpot. La chaîne peut diffuser la série plus tôt dans la soirée et vous la paye 6 fois plus. 600% d'augmentation. On passe à 150 000 dollars l'épisode plutôt que 25 000 dollars. C'est simple. Et avec votre nouveau concept qui repose plus sur l'héroïsme des sauvetages que sur les traques policières, ben, y a pas de risque, quoi. Vous pouvez montrer une femme en danger, en train de se noyer, mais pas une femme en train d'être frappée par un homme. C'est aussi simple que ça. Allez, banco. Et ça, personne ne vous l'avait jamais dit auparavant. Sur le territoire américain, vous allez décrocher un distributeur qui va vendre la série, non pas à une grande chaîne, mais aux myriades de chaînes locales qui parsèment le territoire américain. Il y a 212 sections du territoire, pour être très précis. Car oui, il y a en effet les grandes chaînes, les gros networks qui couvrent tout le territoire en même temps, les NBC, ABC, etc., mais aussi une chaîne locale à Los Angeles, deux autres chaînes locales à Sacramento, d'autres à Nashville, dans chacun de ces 212 territoires. Si vous voulez un équivalent, c'est un peu comme les stations régionales de France 3, quoi. Des télés locales. Elles n'ont pas les budgets pour se payer des grandes séries inédites, mais si elles sont un peu nombreuses, si on les réunit et qu'on divise alors le prix, ben ça peut marcher. On appelle ça aux États-Unis la syndication. Et avec une solide campagne de promotion auprès de toutes ces chaînes, 89% du territoire vient d'acquérir les nouveaux alertes à Malibu. David Hasselhoff va ainsi résumer ce qui s'est passé et qui est quand même assez incroyable.
Étant donné que j'ai passé du temps en Allemagne pour ma carrière musicale, j'y ai vendu des disques qui sont devenus disques d'or et de platine. Il y a eu une forte demande pour Alerte à Malibu et David Hasselhoff sur les marchés étrangers. On a pu réunir assez de fonds étrangers pour avancer 50% du budget. Alerte à Malibu coûte entre 860 000 et 1 million de dollars par épisode. On a obtenu suffisamment de fonds étrangers en pré-vendant la série en Europe, d'abord, puis en Extrême-Orient, mais en Europe surtout. On a pu rapporter cet argent aux États-Unis et dire « voilà 450 000 dollars ». Qu'est-ce qu'il nous manque ? 300 000 ou 400 000 de plus ? Comment les obtenir ? On a fait de la pré-vente publicitaire. Une nouvelle méthode inventée par Henry Siegel pour assurer la diffusion d'une série. Henry est l'un des premiers à avoir cru en Alerte à Malibu. On a réuni suffisamment d'argent avec les espaces publicitaires pour faire notre trou. Soudain, on avait les moyens de redémarrer. On a refait la distribution et on a baissé les cachets. Je suis devenu producteur exécutif avec une influence au niveau créatif.
Vous, pendant ce temps-là, vous bossez. Ben, vous bossez pour optimiser votre processus de production et faire baisser les coûts. C'est quand même important. Plutôt que de payer une fortune en louant des studios déjà existants, vous allez louer un entrepôt près de Marina del Rey. Oui, un entrepôt, un hangar vide, quoi. Avec quelques parois, ben c'est là où vous aurez les bureaux de la production, les salles de montage, les studios pour les scènes intérieures. Ce que vous ignorez, c'est que dans quelques années, ce style de production va faire des petits « tout le monde fera de même ». Vous allez aussi équiper tout un étage du quartier général des sauveteurs sur une plage en un studio de tournage, avec deux ou trois lieux permanents, comme le bureau du héros Mitch. Cela permet de tourner vite les jours de mauvais temps, sans avoir à déplacer toute l'équipe à l'autre bout de la région. Voilà, tout est calé, On est en juillet 1991, juste après la fête nationale, le premier tour de manivelle est donné sur le nouveau Alerte à Malibu. Et pour bien imprimer dans les esprits la différence avec la version d'NBC d'il y a un an, ce premier épisode est basé sur le sauvetage héroïque qui vous a valu la médaille. Vous vous souvenez, je vous l'ai raconté tout à l'heure. C'est Shawnee, Eric et Lenya, qui sauve une petite fille et qui va ensuite l'aider dans sa vie. Pas de crime, pas de kidnapping, vraiment un sauvetage. Et Erika et Lenya avaient pris entre-temps des cours d'art dramatique. Elles jouaient bien mieux que dans la saison précédente. Bon, ça va pas tout seul non plus. Hein. Le premier jour du tournage, il pleut. Voilà, il pleut à Los Angeles. C'est franchement incroyable. Bon, c'est pas grave, vous tournez quand même. Hein. Et pour l'épisode suivant, vous êtes un peu trop long de 10 minutes. Vous avez dépassé le budget. Eh ben, c'est pas grave. Parce que vous êtes pragmatique, vous mettez la deuxième intrigue de l'épisode de côté, avec un peu de tournage en plus, vous en ferez un deuxième épisode. Arrive la saison 2, parce que, comme les audiences sont au beau fixe, avec 65% de votre public féminin, et que vous tenez votre budget, que chaque épisode est tourné en 5 jours, que vous avez produit 22 épisodes en 32 semaines, alors que la plupart des autres séries ont besoin de 10 semaines de plus, eh ben vous avez une saison 2. C'est automatique. Pour remplacer deux comédiens qui quittent le navire, vous allez engager la très belle Nicole Eggert, qui était déjà dans la série Charles sans charge, et David Charvet. Bon, lui, David Charvet, vous ne trouvez pas ce jeune acteur très intéressant quand même, hein ? Mais d'autres membres féminins de l'équipe vous confirment qu'il a un charme fou. Sauf que, David, il est bien gentil, mais votre pressentiment était exact. C'est plus un top modèle qu'un acteur. À ce titre, il va vous falloir en tenir compte si vous voulez finir les scènes avec lui en temps et en heure. Hein. Il va falloir définir tout un processus de production basé sur, comment pourrais-je dire, son type de prestation. Après 4 saisons, David Charvet cède au chant des sirènes que lui joue son agent artistique. Il va quitter la série pour une autre, où les acteurs sont mieux payés. Et il débarque dans Melrose Place. Ah, là, le téléphone, tiens. Eh ben justement, c'est un des producteurs de Melrose Place qui vous appelle. Bon, il est un peu paniqué depuis que Charvet est dans la série quand même. Parce que là, quand même, il vous dit, mais comment tu fais, toi ? C'est pas possible. En fait, David Charvet, à l'époque, n'apprenait pas ses textes. Il les mémorisait, sans les comprendre. Donc, il mémorise aussi le texte de ses partenaires. Il va même jusqu'à les chuchoter quand il joue avec eux. Ce qui est très déstabilisant, quand même. Hein. Donc, il récite. Alors, pour tourner une scène avec lui, la solution est la suivante, et c'est ce que vous donnez à votre collègue de Melrose Place. Pas de texte de plus de 4 lignes. Pas de dialogue descriptif, surtout pas de choses à faire pendant qu'il récite son texte, genre faire semblant de manger, se servir un verre ou quoi que ce soit d'autre. Il serait incapable de refaire exactement pareil au même moment à la prise suivante et ça rend tout montage impossible. Et enfin, un minimum de mouvement dans la scène. Une fois que vous respectez ça, vous verrez, il est parfait. Vous allez aussi auditionner de nombreuses autres actrices, dont Paula Abdul, Sandra Bullock. Et puis, il y a une actrice qui loupe systématiquement son rendez-vous et qui, là, est finalement bien présente. Elle est déjà en tenue, elle est carrément venue en maillot de bain rouge. Son audition se passe très bien. Vous lui demandez si ça lui pose le moindre problème de tourner une grande partie de chaque épisode en portant un maillot de bain. Elle va vous répondre que, si elle avait le choix, elle apparaîtrait entièrement nue. Le nom de l'actrice, c'est Pamela Anderson. Inutile de vous dire qu'au bout de quelques épisodes, la célébrité de Pamela Anderson va monter en flèche. Même si Alerte à Malibu lui offre un salaire qui n'est pas si mirobolant que ça, mais qui augmente quand même à chaque rediffusion, je vous rappelle, elle va parfaitement savoir comment en tirer profit. Une présentation en Australie, 100 000 dollars. Un scoop sur son divorce, 100 000 dollars. La photo de son enfant, 450 000 dollars. Par contre, après 5 saisons, Pamela va quitter la série, sans même vous en avertir. Elle va balancer la nouvelle dans une interview, alors que vous êtes en vacances en janvier 1997. La grande classe. Là encore, son agent et son entourage lui ont fait miroiter bien d'autres opportunités, comme par exemple une série VIP. En saison 5, en 1994, vous allez découvrir une autre beauté, Yasmine Bleeth, ou Yaz. Après Alerte à Malibu, Yasmine Bleeth intégrera d'autres séries, comme Nash Bridges avec Don Johnson et comme Titans, le soap de soirée qui devait ressusciter le genre tout entier et contribuera en fait à le ridiculiser un peu plus. La saison suivante, vous engagez Gina Lynn Nolin, qui était auparavant une célèbre animatrice du juste prix des années durant. Et au bout de quelques mois, elle va débarquer en larmes dans votre bureau. Elle veut quitter la série, elle vous confie son grand secret, elle a une peur panique de la caméra. Elle est terrifiée sur un tournage. Elle ne peut plus le supporter. Avec beaucoup de patience et quelques concessions, vous allez la rassurer, vous avez la préserver et sa phobie va finir par disparaître. En fait, c'était surtout un manque d'assurance devant ses capacités à maîtriser son rôle, les changements de dernière minute dans les dialogues, les scènes qui se modifient, etc., etc. Elle a fini par surmonter tout ça. Vous avez même fait que son personnage, Nili, se marie avec Mitch Buchanan. En 2000, elle deviendra Sheena, la reine de la jungle qui communique avec les animaux, dans une série qui durera 2 saisons. Bon, c'est pas la seule actrice de la série à avoir des soucis de confiance en soi, hein, quand même. Vous vous souvenez de Erika Leniak, qui était avec vous au début de la série, à l'époque où la série se faisait pour la chaîne NBC. En fait, entre cette saison-là et le retour de la série, elle a décidé de se faire poser des implants mammaires, mais des implants encore plus importants que ceux qu'elle avait déjà quand elle a été engagée. Pour vous, c'est carrément n'importe quoi, c'est une hérésie. C'était trop énorme, au point qu'elle ne pouvait même plus courir. Elle quittera la série après 2 saisons. Donna DeRico, elle, devenait absolument insupportable avec la maquilleuse, la coiffeuse et la costumière. Elle n'a pas fait l'effort de prendre des cours d'art dramatique, vous avez dû la virer. Et puis il y a le cas de Tracy Bingham, qui, elle, avait réellement un souci. Non seulement elle ne savait pas du tout jouer la comédie, mais en plus, elle ne faisait aucun effort pour s'améliorer. De surcroît, son agent un jour vous demande une avance sur son salaire, parce qu'il vous dit qu'elle est complètement à la rue, elle vient de se faire virer de chez elle, donc elle a besoin d'argent. Et en fait, à l'insu de son propre agent, elle avait besoin de cet argent pour se faire faire des implants mammaires. Carmen Electra, elle, n'est restée en fait que 12 épisodes dans la série. Son agent artistique vous cassait constamment les... Bon, enfin, il vous harcelait, quoi. Il voulait absolument obtenir plus de sous, plus de ceci, plus de cela. Elle, elle était charmante, hein. Tout se passait bien. Mais son agent était vraiment insupportable. Au bout d'un moment, ça a été moins de tout, en fait, hein, plutôt que plus de tout. Et vous l'avez purement et simplement viré. Tous ces nouveaux venus et les suivants, le deal est simple. Le salaire est relativement bas, 2 500 $ par épisode. Mais il y a 20% d'augmentation à chaque nouvelle saison. Un contrat de 5 ans, un nombre limité d'épisodes où ils apparaissent par saison, généralement 12 sur les 22, parce que cela permet de se payer une distribution large et diverse sans pour autant plomber son budget. Par contre, votre acteur touche de l'argent à chaque rediffusion, dans les mois qui suivent la première diffusion. Et sur les chaînes locales américaines, il y a des rediffusions plusieurs fois par semaine. Donc, au bout d'un moment, avec les royalties, votre salaire devient de plus en plus important. Et même peut-être plus important que celui que vous auriez sur une grande chaîne. En retour, vous devez, vous, d'être absolument intraitable. Zéro augmentation, parce qu'un agent de vos vedettes vient taper du poing sur la table, ça n'est pas question, hein, on l'a bien vu. Vous ne pouvez pas vous permettre la moindre augmentation, autre que celle qui est contractuellement prévue, parce que l'acteur ou l'actrice n'a pas d'autre choix que rester à ce même tarif ou partir. La série, elle, multiplie les gros coups. Lors de la saison 6, vous allez faire un de vos fameux doubles épisodes qui tracte beaucoup d'audience. Celui-ci se déroule à Hawaï avec 150 personnes de l'équipe qui vont y séjourner pour 13 jours de tournage. Un tournage ultra hot quand même, hein, avec David Charvet et Pamela Anderson qui vont vous offrir des scènes passionnées reflet de leur amour de l'époque, qui était bien réel. Par contre, en 1995, vous allez vous laisser convaincre et vous allez faire une grosse bêtise. Vous allez faire un spin-off, une série dérivée. Bon, c'était purement pour des raisons financières, hein, pour l'argent, pour aussi faire tourner la structure que vous avez créée pendant le restant de l'année. Donc, c'est pas du tout par passion, c'est pas du tout pour les mêmes raisons qui vous ont poussé à faire Baywatch. Donc, avec vos collègues scénaristes, vous allez lancer cette idée stupide de Baywatch Nights. Une série où David Hasselhoff, toujours dans le rôle de Mitch Buchanan, devient détective privé le soir venu et qui roule dans une grosse voiture de sport, il résout des enquêtes, etc., etc. C'était complètement grotesque. L'audience est tellement minable que pour la saison 2, il y a un changement de direction complet et que cette série lorgne d'un seul coup vers l'X-Files. Mitch doit combattre des monstres qui viennent des abysses, des vampires, des créatures infernales. C'est absolument n'importe quoi et en plus c'est très très cheap. Dans un épisode, Mitch va même être transporté dans le futur. Dans un autre, il sera dans un univers parallèle. Bon, vous avez détesté ça, l'animation de la série a été de libération pour vous. Pour David Hasselhoff, c'était une période assez faste quand même. Il était dans 2 séries à la fois.
Je travaille surtout derrière la caméra. Après l'écriture de l'épisode, il ne reste plus que 40% du travail. J'apprends mon texte sur le trajet depuis ma loge jusqu'au plateau. Je ne passe pas de temps à le réviser. C'est inutile. Je passe le plus clair de mon temps à créer la série, à m'assurer que la distribution et les histoires conviennent. J'écris presque toutes les histoires de Mitch Buchanan. J'ai un mot à dire en ce qui concerne la distribution, le budget et la promotion. Je vais de pays en pays pour travailler avec mes partenaires, Star TV, ITV, Beta Taurus, Sat 1, TF1 en France. J'assiste à des conférences pour m'assurer que les chaînes américaines continuent à diffuser la série. J'interviens auprès de chaque chaîne pour obtenir les chiffres d'audience et faire la promotion. Je fais en sorte que le moral soit au beau fixe sur le plateau.
En 1999, au milieu de la 9e saison, vous savez que votre série touche à sa fin. Les audiences chutent, autant aux États-Unis qu'en Europe. L'engouement n'est plus le même. La saison 10 sera peut-être la dernière. Mais personne n'ira au-delà. Alors, vous décidez de tenter un changement radical pour encore une fois relancer la série. Changer de lieu, une autre plage, dans un autre pays, avec les mêmes sauveteurs. Et après de nombreuses recherches, vous vous décidez pour l'Australie. Pour tester le processus, vous avez même tourné un double épisode de la saison en cours à Avalon Beach, au nord de Sydney. Comme ça, la transition avec la saison suivante sera moins brutale. Sauf que, en plein tournage, vous allez vous heurter à trois surfeurs du voisinage qui vont susciter la défiance vis-à-vis de la série et iront jusqu'à vous menacer. Et puis, ça prend des proportions délirantes. Tous les médias vont se mettre à en parler. Alors c'est trop. Tant pis pour l'Australie. Alerte à Malibu ne deviendra pas alerte à Sydney. Même le Premier ministre demande à vous parler. Il est essentiel pour l'économie du pays que Alerte à Malibu arrive chez lui. Il propose le Queensland. Vous faites des repérages, vous êtes pour et le contre. Bon, finalement, allez, vous êtes presque convaincu. Mais au moment de signer, votre coproducteur vous supplie de n'en rien faire. Surtout ne signe pas. Je vais nous rejoindre à Hawaï. Là-bas, toute l'infrastructure est prête pour accueillir la série. On vous fait d'excellentes conditions financières qui sont très avantageuses. Pour sa 10e saison, Alerte à Malibu va donc devenir Alerte à Hawaï. Ce sera la dernière pour David Hasselhoff qui décide de ne pas poursuivre l'aventure. À la fin de la saison, son personnage semble mort. En tout cas, il est porté disparu. Et d'autres acteurs comme Jason Brooks ou Jason Momoa, et oui, Jason Momoa, le futur Aquaman, vont compenser son départ. Vous arrivez jusqu'à la saison 11 et en 2001, l'alerte cesse de retentir. En 2003, vous allez réunir David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmin Bleeth, Carmen Electra, Gina Linolin, Nicole Eggert, bref, les icônes de la série pour un téléfilm. Mariage à Hawaï. Mitch Buchanan s'avère ne pas être mort, il va donc se marier à Hawaï où CG tient maintenant un bar. À ce stade, il sera ingrat de terminer sans laisser la parole à nouveau à celui sans qui la série n'aurait pas survécu autant de temps, à autant de changements, à autant de résurrections. David Hasselhoff, en 1999, il s'exprime depuis la Nouvelle-Orléans, lors du NASPI, un marché professionnel qui a beaucoup contribué à la vente de la série sur le territoire américain.
C'est un phénomène. C'est fait pour les gens qui rêvent de l'Amérique. Ils allument la télé et ils ont... Ils ont la chanson, les beaux paysages, les bateaux, les filles, les mecs, les héros. Ça vous arrive en plein visage. C'est une alternative à votre vie de tous les jours. Ma contribution à la série, c'est le goût. Je suis né avec un goût excellent. Je suis celui qui a dit que la série ne pouvait pas se limiter à des nuées de jeunes femmes qui courent sur la plage au ralenti. Il faut des histoires sur Mitch et son fils. Des histoires sur des gens rescapés et des sauveteurs crédibles. Ça a bien fonctionné, car il y en a pour tous les goûts.
Bon, pour vous quand même, hein, Greg Bonan, mis à part Alerte à Malibu, vous n'avez pas vous reposer sur vos royalties. Vous allez produire Caraïbes Offshore, une autre série d'action, scénario quand même franchement superficiel, avec le catcheur Hulk Hogan. Et en 2013, vous allez créer SAF3, Safe, une autre série sur des sauveteurs en mer, sur terre et dans les airs. C'était avec Dolph Lundgren, ça n'a duré qu'une seule saison. Mais surtout, vous êtes parvenu à réaliser votre rêve, au-delà de toute espérance. De votre passion pour votre métier, le sauvetage, vous en avez fait un phénomène mondial, vu par des milliards de spectateurs. Alors, on va être très franc, et vous le savez bien, C'est aussi pour la plastique des interprètes et les ralentis sur les poitrines des jolies filles qu'il y avait autant de gens devant leur poste, comme Joey Chandler. Pas obligatoirement pour la glorification du héros qui sauve des vies. Le sexe fait vendre, vous le savez. Mais si cela permettait de faire passer un message positif, une image positive du sauvetage, eh bien la partie était gagnée. Pour raconter votre vie, je me suis reporté au livre que vous avez écrit avec Brad Lewis, Baywatch Rescued from Primetime, un livre qui est maintenant très difficile de trouver, qui n'existe qu'en anglais, mais au-delà d'Alerte à Malibu, c'est un livre absolument passionnant pour tous ceux qui veulent savoir comment une série télé se fabrique. La semaine prochaine, nous célébrerons ensemble une série qui va s'arrêter. Big Bang Theory. J'endosserai pour cela l'identité de Léonard et je serai accompagné de Penny et de Sheldon. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.